Véronique de Vigry, bonjour, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Merci de me recevoir chez vous à Paris. Merci de me consacrer de votre temps pour réfléchir, pour discuter tout simplement de votre travail et de qui vous êtes de manière philosophique. Et je voudrais commencer par une citation du grand photographe Augusto De Luca. Mmh. Et voilà ce qu'il souligne, on lui demandait qui il était. Et voilà quelle fut sa réponse. « À travers mes photos apparaissent toutes mes idées, mes passions, mes monstres, à quoi je pense et qui je suis. » Et vous, Véronique de Vigry, qui êtes-vous ?
Moi, je suis donc une photojournaliste depuis maintenant 20 ans. C'est mon métier, mais c'est aussi ma passion, plutôt même ma vie. Je suis aussi maman de deux petites filles. J'essaye de concilier tout ça. Voilà, et d'essayer de pas trop, être à la fois une bonne photojournaliste et une bonne mère. C'est pas facile. Presque impossible, mais essayer de faire ça du mieux que je peux.
Quel est votre... si vous deviez donner vos plus belles qualités, non pas comme les autres vous voient, mais pour vous,
qui est celle qui m'aide le plus,
oui,
dans la vie,
celle qui vous caractérise le plus,
celle qui me caractérise le plus, bon, je pense que ça va être je sais pas quel est le mot de ça, mais c'est d'y aller, de toujours y aller,
d'avancer, d'y aller.
D'y aller.
Vous êtes déterminée.
Est-ce qu'on peut dire ça? Non, c'est pas déterminé, c'est peut-être aventureuse dans le, mais pas vraiment dans le truc d'aventure. C'est que je me pose pas 20 000 fois la question, j'y vais. Voilà. Okay. Et ça, c'est une qualité qui m'a beaucoup aidée et qui fait que je suis là où je suis aujourd'hui.
Ce qui est très beau, c'est que nous sommes dans un cercle d'anthropologie intitulé Devenir pour agir.
Ah,
et donc voilà. Ça rentre complètement dans votre qualité, rentre complètement dans le concept de ce petit déjeuner. Véronique de Vigry, quelles sont les grandes lignes de votre carrière professionnelle ?
Les grandes lignes, j'ai eu énormément de chance, c'est qu'en 2003, je faisais un stage dans un journal local anglais. Et ils m'ont envoyé pour la première fois en Afghanistan et j'ai eu comme une révélation, comme un coup de foudre. En tout cas, c'était un des rares moments de ma vie, peut-être même le premier moment de ma vie où je me suis dit je suis exactement là où je veux être et je fais exactement ce que je veux faire. Et ça m'a... Enfin, à partir de ce moment-là, en tout cas, j'ai su que je voulais être photojournaliste et dans des pays plutôt en conflit, comme l'Afghanistan. Donc voilà, c'est ça qui m'a permis après de me lancer en tant que freelance en Afghanistan en 2004, où j'ai vécu 4 ans, et l'Afghanistan, c'est le pays où je suis née en tant que photojournaliste. C'est là où j'ai fait mes premiers pas, mes premières erreurs, mes premiers succès, mes premières ventes, mes rencontres très très importantes qui comptent aujourd'hui encore. Et voilà.
Vous avez eu plusieurs distinctions, plusieurs prix par la suite. Quelques questions de sémantique. Être photojournaliste, exactement quelle est la définition ? Parce que nous avons le photo, nous avons le mot photo, le concept journaliste.
En fait, moi c'est comme ça que je le vois. Être photojournaliste pour moi, c'est raconter une histoire avec des images.
D'accord.
Donc c'est pas seulement être photographe, prendre des belles photos, c'est prendre des photos les plus poignantes, les plus fortes possibles, mais dans le but que chaque photo apporte quelque chose à l'histoire que l'on raconte.
C'est intéressant ce que vous dites, d'autant plus que j'ai une question par la suite exactement sur les concepts que vous avez et que vous venez de donner. Quelle est la définition que vous donnez de la photo ? Qu'est-ce qu'une photo ?
Je crois que pour moi, la photo, c'est imprimer un instant T à jamais.
C'est la photo ou c'est être photographe?
Ah non, enfin ça dépend. Ça, je pense que c'est la
Oui, la
photo.
photo.
C'est vraiment la concrétisation d'un instant T qu'on record, qu'on enregistre.
L'enregistre, oui.
Et le photographe, en fait, le photographe, ça va être celui qui va amener le regard de celui qui regarde la photo là où il veut.
Là où il veut.
Ouais.
Donc il y a
Grâce à
une...
son cadre.
D'accord. Donc il y a une intentionnalité.
C'est peut-être que pour le photojournaliste et peut-être pas pour le photographe en général, mais même si, je crois qu'il y a toujours une intention quand on prend une photo. Pourquoi ce moment-là? Pourquoi ce cadre-là? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là on s'est baissé? Pourquoi à ce moment-là on s'est au contraire mis sur un tabouret? Pourquoi est-ce qu'on a choisi tel angle? Et pourquoi cet instant précis?
Oui, c'est ça. Et comment réagissez-vous à cette définition d'Henri Cartier-Bresson qui souligne que photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur?
Ben c'est très vrai. C'est très vrai parce que
Oui.
quand on prend. Pourquoi est-ce qu'à un moment on va décider de prendre une photo? C'est parce que ce qui se passe devant nos yeux, cet instant-là, nous parle. Peut-être parce qu'il nous rappelle quelque chose qui était agréable et dont on veut se souvenir, parce qu'on vit un moment qu'on veut garder pour soi presque pour l'éternité. Donc oui, il y a le cœur, la tête et l'œil qui
Y
sont
a-t-il,
alignés.
oui, mais alors y a-t-il une hiérarchie pour vous? Vous commencez par la tête. Quel est le, finalement, tout
En
à
fait,
l'heure, on
ça
parle.
dépend
Oui.
parce que parfois on peut prendre des photos qu'on voit avec l'œil, quelque chose qui est tellement étonnant. Non, en fait, il n'y a même pas d'hiérarchie parce que ça va être, je veux dire, spontané. C'est quelque chose qui va se passer peut-être. D'abord dans la tête, dans le cerveau, quelque chose qui va nous interpeller et donc qui va mettre notre œil en marche. Et après, on va prendre la photo ou pas avec le cœur. Non, je crois que c'est assez simultané, je pense.
D'accord,
Je pense qu'il
parce
faut les
que
trois pour prendre la photo.
il faut les trois ensemble. Enfin,
Ouais,
c'est une
ouais.
unité, c'est une harmonie. Ouais. Véronique Vigry, vous êtes, je dirais, la porte-image ou la, ouais, la porte-photo de l'humanité, puisque vous prenez, vous êtes spécialiste dans la photographie des pays en conflit. Quand vous prenez une photo, quel est pour vous et selon vous l'accord, le lien ou peut-être l'opposition entre la réalité et la vérité? Quand vous prenez une photo, est-ce que votre objectif c'est de transcrire la réalité ou c'est de donner une vérité? Et quelles sont ces deux définitions selon vous en tant que photographe?
Alors, mon travail de journaliste, dans l'absolu, dans l'idéal, serait de transmettre une réalité.
Oui.
Mais quand on est. Donc, nous, quand on. Bon, moi, je travaille beaucoup pour les magazines. Donc, on est cité comme envoyés spéciaux. Et donc, je
Voilà.
crois qu'à partir du moment où ils envoient deux personnes humaines rapportées d'une situation qui se passe dans un pays en conflit, en fait, on ne peut pas se détacher de la vérité auquel pensent ces personnes envoyées spécialement
Oui.
là-bas, qui arrivent avec ben, finalement leurs préjugés. Mais voilà, donc notre travail, c'est de se débarrasser le plus possible de ces préjugés et faire en sorte que notre vérité soit la plus proche de la réalité. Ou en tout cas, d'essayer de les faire se concorder le plus possible. En sachant que, évidemment, on voit, on sent et on pense avec notre être qui est subjectif
Oui.
et qu'évidemment, il y a il y a une influence de notre personnalité sur comment on va percevoir cette réalité.
Oui, mais alors est-ce que, alors pour vous et selon vous, la vérité photographique est-elle subjective ou est-elle objective?
Elle est évidemment subjective, mais il faut essayer le plus possible de la rendre objective. Donc c'est pour ça que dans le journalisme, et donc le photojournalisme, on va essayer de ne pas entendre une seule vérité et qu'on doit, comme quand on fait une dissertation, on va voir les pour, les contre, et puis sûrement que la réalité est quelque part au milieu de tout ça, un peu plus nuancé que ce qu'on imagine. Notre boulot, c'est justement de ne pas s'arrêter à une vérité et d'essayer d'aller, en tout cas, récolter le plus de vérités possible pour que le lecteur qui va lire le magazine s'approche le plus de la réalité, en tout cas, qu'on a vue sur le terrain.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous me faites penser à une certaine définition de Maupassant. Maupassant qui souligne que le réaliste, s'il est artiste, cherchera non pas à nous montrer la photographie banale de la vie, mais à nous donner la vision la plus complète, la plus saisissante, plus probante que la réalité même. C'est-à-dire que quand vous prenez une photo, vous allez complètement au-deçà de la réalité, vous allez beaucoup plus loin que la réalité, pour essayer de nous donner la vision la
Oui,
plus vraie,
parce qu'en
peut-être.
fait, c'est une photo. Bon, moi, je travaille beaucoup pour les magazines, donc il y a plusieurs photos, ce qui me permet de donner un contexte à la photo en question.
Voilà.
C'est-à-dire que ce n'est pas juste une photo, parce qu'une photo peut être très, justement, très irréaliste, peut donner une toute autre vision de la réalité du terrain. Et donc moi, mon boulot, quand je dis que je raconte une histoire, c'est comme une histoire, c'est-à-dire que je ne vais pas raconter un moment donné sans donner tout le contexte qu'il y a autour.
Oui, c'est ça, la vision la plus complète. Une autre question, Véronique de Vigry. Quand nous voyons vos photos dans les journaux, dans les magazines, pour nous, en tant que lecteurs de ces magazines, moi, je me suis posé la question de la place de l'inconscient et de la conscience. Autrement dit, vous nous aidez à prendre conscience, à travers la photo, de ce qui, pour nous, de prime abord, était inconscient. Mais vous, en tant que photojournaliste, quelle est la part d'inconscient que vous avez en prenant, en couvrant des situations de
Mais
conflit?
il y a une énorme part, je pense, inconsciente. Quand par exemple, je vais vous donner un exemple qui est tout bête, c'est que quand j'étais plus petite en allant au ski, j'étais vraiment beaucoup plus jeune, peut-être j'avais 8-10 ans, en allant au ski dans la voiture avec mes parents, la lumière était magnifique. Et je sais pas, ça éclairait les troncs des arbres d'une manière que je trouvais vraiment sublime. Et donc je dis à mes parents, oh, regardez comme c'est beau là, les troncs éclairés. Je crois que c'est ma fille. Oui, je l'ai raté. Le bruit, c'est bon?
Je sais pas si.
Lou? Lou?
Arrêtez.
Lou? Et donc là, mon père se retourne et me dit, ah, tu dois avoir un œil un peu particulier parce que bon, ben moi ça me touche pas. Et je pense que c'est ça, c'est qu'en fait on va avoir comme tout le monde, on a des choses qui nous marquent,
Oui.
Nous paraissent importantes, qui vont pas du tout être les mêmes en fonction de qui on est. Par exemple, quand on dit que après un accident, si la police demande à 10 personnes qu'est-ce qui s'est passé, il y a 10 personnes qui vont donner une version différente, certaines qui vont donner une importance de dingue à la marque de la voiture, la couleur. Enfin, voilà, c'est que chacun, on a une espèce de filtre
D'accord.
dans notre cerveau qui fait que, certes, mais qui est, on va dire, un différent maillage, et il y a des éléments qu'on retient et d'autres qui tombent, et c'est pas les mêmes pour tout le monde, quoi.
Oui, c'est ça. Ce n'est pas les mêmes pour tout le monde. Vous venez d'utiliser une expression, l'œil particulier. On a chacun un œil particulier. En tant que photojournaliste, quel est votre œil particulier?
C'est-à-dire que je pense que en commun, on a les photographes, photojournalistes, mais alors là, je mets tout le monde, tous les photographes, hein, tous ceux qui, comme on dit que prendre une photo, c'est peindre avec la lumière, je pense qu'on a tous une certaine sensibilité, en tout cas, à la lumière.
C'est très beau ce que vous dites parce que c'était exactement la question que j'allais vous poser. Finalement, vous, en tant que photojournaliste, votre travail, c'est de passer de l'ombre à la lumière.
Oui, exactement, c'est d'éclairer, et d'autant plus dans le photojournalisme, en tout cas que moi j'aime, c'est vraiment de donner la parole à des gens qu'on n'entend pas beaucoup, des gens qui
Oui.
sont souvent oubliés, des conflits qui sont enterrés, ou parfois des chiffres dont on parle, mais qu'il faut humaniser, et donc quelque part effectivement éclairer et remettre sur le devant de la scène. Pour qui, ben, tout d'un coup, il soit là, plus vivant, plus réel.
Donc vous rendez d'une certaine manière visible l'invisible.
C'est le but.
C'est le but qui pourrait résumer. Véronique de Vigrine, quand vous photographiez, par quoi êtes-vous attirée? Dans le sens, quand vous prenez votre appareil photo, quelle est la part de prévoyance et de hasard que vous avez à travers votre profession? Et à travers finalement vous-même, votre identité, votre...
Bah, heureusement qu'elle est hyper importante, parce que c'est ça qui me plaît, et je pense qu'il plaît à tout le monde, c'est de se laisser surprendre et d'être toujours surpris par ce qu'on va découvrir. Moi, personnellement, ce que j'aime, c'est l'humanité qui, dans ces zones de conflit, et est extrapolé, sublimé souvent. C'est Chauvel qui disait que les zones de conflit où la guerre est un révélateur d'humanité, mais il a raison en fait, parce que souvent on ramène à des histoires plutôt tristes ou de victimes et ça, mais on le raconte moins, mais on le voit beaucoup. Il y a des choses extraordinaires qui se passent dans les zones de conflit, avec des gens qui vont se surpasser. Il y a une solidarité qui va s'éteindre dès que le conflit va s'éteindre, mais qui se fait dans cette espèce d'urgence. Et moi, je suis toujours surprise par ça, mais que ce soit par l'extrêmement bon comme l'extrêmement mauvais, et de en fait, à chaque fois, de découvrir un peu plus les humains, enfin nous.
Oui, mais alors est-ce que, comme le dit le philosophe John Stuart Mill, il y a cette complicité omniprésente lorsque vous photographiez entre cette prévoyance et ce hasard? Est-ce que finalement c'est une complicité ou c'est une opposition? Et y a-t-il, comment dirais-je, quand vous voulez photographier, est-ce que vous prévoyez, vous dites je veux aller à tel
En
endroit
fait,
pour...
nous, ce qu'on nous demande de plus en plus, c'est-à-dire parce que c'est quand même un métier, donc il faut quand même que quand je pars, il faut que je rentre avec quelque chose, et je l'ai normalement vendu à un magazine. Donc c'est plus comme avant où on part à la fleur au fusil, en se disant, mais je vais passer un mois en Afghanistan, voyons ce que je vais revenir, enfin ce avec quoi je vais revenir. Non, c'est plus du tout pareil. C'est-à-dire que maintenant, quand vous partez quelque part, vous devez dire au magazine, je pense que je vais, enfin mon angle,
D'accord.
ça va être ça. Donc on a déjà prévu ce dont on voulait parler. Donc on va se focaliser sur. Et donc ce qu'on crée, enfin moi je considère que c'est ça, c'est que je vais créer des opportunités de prise de photos qui vont aller dans ce sens-là. Donc je vais me mettre dans des situations ou avec des gens qui vont avoir quelque chose à faire avec l'histoire que je dois raconter. Mais par contre, une fois que je suis sur place, je laisse les choses se faire. Donc, je
Super.
prévois, je me mets sur le chemin qu'il faut. Par contre, après, je laisse le reste faire. Donc, c'est au lieu de partir un peu n'importe comment, je sais à peu près la direction que je dois prendre. Et je laisse, avec des opportunités photographiques, mais par contre, je laisse le hasard venir. Sinon, ça s'appelle, ça serait tordre le bras carrément à
Oui.
la réalité. Donc là, juste, je me mets sur le chemin de la réalité.
Super, mais alors est-ce que vous croyez vraiment au hasard? Pour vous, le hasard existe-t-il? N'est-ce pas un enchaînement de causes à effet?
Non, je crois que le hasard existe.
D'accord. Véronique de Vigry, pourquoi vous êtes-vous, d'une certaine manière, spécialisée, pourquoi êtes-vous devenue photojournaliste de guerre ou de conflit ou de zone de
Ben
conflit?
justement pour ça, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu cette espèce de révélation quand j'étais en Afghanistan, justement parce que c'était un pays qui était en conflit. Et c'était la première fois que j'allais dans un pays qui était en conflit. Et je me suis rendu compte de la richesse d'humanité qu'il y avait dans ces pays en conflit. C'est un peu comme si on se regardait à l'intérieur de soi, à partir du moment où on se met en, où on sort de sa zone de confort, tout est, bah, toutes nos émotions, tous nos sentiments, toutes nos décisions sont beaucoup plus intenses parce qu'on est, parce que, bah, tout est fluctuant. Et en fait, pour moi, un pays en zone de conflit, ouais, c'est un pays qui est sorti de sa zone de confort et tout est possible. Et tout est sublimé ou extrapolé ou intensifié.
Vous dites, vous venez d'utiliser un concept, à savoir celui d'humanité. Comment définir pour vous l'humain? Qu'est-ce qu'un humain? On est dans un cercle d'anthropologie, donc la connaissance de l'humain. Qu'est-ce que l'humain pour vous?
Il y en a tellement, tellement, je sais pas, c'est ce qui est, ce pourquoi je trouve ça fascinant, c'est que justement, bah, on n'en sait rien. Et
C'est
c'est
génial.
quand, voilà,
Complètement génial.
on peut s'attendre à tout. Et c'est l'inconnu. Et il y a encore tellement à fouiller. Et c'est comme, bah, c'est vraiment aller à la rencontre de l'humain, c'est partir dans une aventure, on ne sait pas quand elle sera finie.
Oui, complètement, c'est un mystère. L'humain
Oui, exactement, c'est un
est un grand
mystère.
mystère. Finalement, comme la photo, je pense, que la photo est un mystère, un mystère du temps. La réflexion sur la temporalité dans la photo, selon vous, une photo arrête-t-elle le temps? Par définition, le temps ne s'arrête pas, mais une photo fige le temps à un
Bah,
instant
pour
T,
moi,
non?
oui.
Oui?
Oui. Pour moi, oui, ça arrête le temps. C'est le temps, un instant imprimé.
Un instant imprimé pour qui ou pourquoi et pourquoi?
Alors ça dépend parce que ça peut être un instant imprimé pour vous personnellement. Ça peut être un instant imprimé à diffuser, à montrer aux autres, ou ça peut être un instant imprimé qui sera jamais, au contraire, qui sera jamais vu. Pourquoi à ce moment? Je pense que parfois, quand on appuie sur le bouton pour déclencher les photos, on ne sait pas encore ce que ça va en faire. C'est qu'il y a d'abord un geste réflexe, instinctif, et puis après on réfléchit. Mais je pense que ça peut être imprimé pour tout un tas de raisons différentes.
Oui. Est-ce que vous découvrez la photo? Là, vous me faites penser à une question que je voulais vous poser auparavant, mais qui ne s'est pas prêtée. Est-ce que vous découvrez votre photo après
Non.
l'avoir faite?
Non, la photo, je la découvre avant d'appuyer sur le bouton.
D'accord. Et vous ne découvrez pas autre chose
Ah, parfois, on a des trucs. Mais par exemple, moi, j'ai des photos que j'ai imprimé dans la tête, mais que je n'ai pas déclenché.
D'accord, oui, voilà, c'est ça. Vous n'avez pas déclenché. Véronique de Vigry, vous êtes assez peu, peut-être, pardonnez-moi mon ignorance, en tant que photojournaliste, vous êtes, me semble-t-il, assez peu de femmes dans ces zones de conflit. Quelle est pour vous la place de la femme en tant que femme d'aller, je dirais, au plus proche de la violence, de la guerre?
Alors, on est de plus en plus, mais c'est vrai qu'on est encore minoritaire. Ben pour moi, c'est primordial qu'il y ait des femmes qui aussi rapportent ces vérités des autres d'ailleurs. Ben par exemple, le fait que, par exemple, je vous parle de l'Afghanistan, parce que c'est là que je connais bien, mais moi, quand je suis arrivée en Afghanistan, j'imaginais toujours la femme afghane comme une victime soumise, silencieuse, drapée dans son drap de pudeur. Et en fait, en vivant là-bas, je me suis rendu compte que c'était complètement une vision complètement erronée, bah, qu'elles sont pas du tout comme ça, qu'il y a plein de femmes super fortes, super courageuses, qui se rebellent, qui sont pas du tout soumises et silencieuses comme on veut nous le faire croire. Et en fait, je me suis posé la question, et en fait, je crois que c'est parce que elles avaient été jusqu'à présent beaucoup couvertes par des hommes qui n'y avaient pas accès, et donc, bah, comme ils n'y avaient pas accès, pour plus de facilité, on l'a fait disparaître.
Oui.
Mais c'est pas vrai, et ce n'est pas une réalité. Donc oui, je pense que c'est important pour avoir différents regards, parce que les femmes, dans plein de pays, on a quand même un accès privilégié aux femmes, qui sont quand même la moitié de
C'est ça, oui.
l'humanité, et que peut-être notre regard de femme est différent d'un regard d'un homme, et donc quelque part aussi une certaine vérité à ramener qui est importante.
Vous voyez, une vérité, c'est intéressant,
Ouais.
là, vous reparlez
Ouais.
de la vérité. Véronique de Vigry, vous couvrez les conflits, les zones de conflit, les zones de guerre, vous êtes au plus proche de la mort finalement. Quel est pour vous ce regard sur la mort? Êtes-vous angoissé à l'idée de mourir? Avez-vous peur de la mort?
Alors, je ne sais pas si j'ai attrapé cette façon de penser au fur et à mesure de mes reportages, ou est-ce que je l'ai toujours eu en moi? Je pense que je l'ai toujours en moi. Moi, je suis très fataliste.
D'accord.
Donc, ben, c'est très confortable pour faire ce métier, et c'est très déculpabilisant aussi, puisque du coup, je me dis que arrivera ce qui devrait arriver quand il faudra. Et ça me permet de pas du tout y penser, mais je suis pas du tout angoissée par la mort ni par les dangers. Je suis en plus d'être fataliste, très optimiste, donc je crois vraiment que enfin je pars jamais en pensant que je risque de pas revenir.
D'accord, oui, vous. Donc ce regard de la mort, finalement, elle fait partie de la vie. De toute façon, elle fait
Oui,
partie de la vie,
et la
vous.
mort fait partie de la vie, et je crois que les dernières années qu'on vient de vivre avec le Covid, ça nous a refait prendre conscience que effectivement la mort fait partie de la vie, et que la mort n'est pas quelque chose d'inacceptable, même si c'est horrible, mais qu'on doit évidemment l'accepter. C'est la chose la plus banale, comme de naître,
Oui.
auquel nous serons tous confrontés. Et bah, on a beau se battre contre ça, c'est elle qui gagnera.
Complètement. Dans votre travail, vous êtes donc confronté à la mort, à la violence. Quel parallèle faites-vous entre une zone de conflit de guerre, une violence physique, et les violences morales dont l'humanité, finalement, au quotidien, peut... Ah. Ces deux sortes de violences, quelle est la plus terrible, si je puis me permettre de poser la question?
Ben, j'imagine, je sais pas, parce que en fait la violence physique entraîne évidemment la violence psychique, mais ce qu'on découvre dans des pays en conflit où les gens ont souffert de violences concrètes, physiques, c'est qu'il y a beaucoup qui arrivent à ne pas être atteint finalement, tellement psychiquement, ou comme on va pouvoir. Par exemple, ces bateaux, ce que je vais dire, et peut-être ça veut rien dire, mais souvent, Je me suis retrouvée maintes fois dans des camps de réfugiés ou de déplacés où les gens n'ont rien. Et les enfants sont tout sourire, attendent la moindre occasion, voire à créer l'occasion pour se taper une énorme rigolade et tout ça. Donc, ce qui pourrait amener à dire que la violence, le conflit, la guerre n'amène pas forcément, ne détruit pas forcément le psychique des gens qui la subissent,
D'accord,
peut-être.
d'accord.
Et que on peut avoir peut-être un psychique détruit sans avoir vécu la guerre. Enfin voilà,
Ouais.
c'est ce que... Je sais pas,
Non, non,
après
mais
c'est pas moi
c'est.
l'anthropologue, c'est pas moi le
Non, non,
truc,
mais
mais c'est vrai
c'est
qu'on retrouve
intéressant.
de la joie et de l'innocence, même dans les situations, et de la solidarité, et donc de l'humanité, même dans des lieux ou chez des personnes qui auraient tout à fait toutes les raisons d'être complètement détruites.
Détruit, ce qui est le grand paradoxe finalement. Et Véronique de Vigry, malheureusement, l'interview va s'achever. Une dernière question, avec le regard que vous avez sur ces zones de conflit et le regard, votre regard en tant qu'humaine, en tant que femme, à tous les milliers d'étudiants qui vous écoutent, quel message d'espérance pouvez-vous aujourd'hui leur offrir?
Eh bien moi, je leur dirais que, en dépit de tout ce qu'on peut leur dire, de tout ce qu'on nous, avec lesquels on nous fait peur, que quand on a un rêve ou un but, ça vaut le coup d'y aller et d'y aller à fond. Et il y a toujours des sacrifices, des concessions à faire, mais à la fin, on est gagnant. Il faut juste y aller.
Les amis, écoutez ce que vient de nous dire notre amie Véronique de Vigry. À la fin, on est gagnant. Il faut y aller. Merci Véronique
Avec
de m'avoir
plaisir.
reçu.
Merci
Merci
Emmanuel.
beaucoup pour la profondeur de vos mots et la passion que vous transmettez à travers votre réflexion. Et permettez-moi de terminer par une citation d'Ansel Adams qui souligne, et je trouve qu'elle vous caractérise le plus, il ne s'agit pas de transmettre une vision en tant que photographe, mais de toucher les gens à travers une image. Merci de nous toucher à travers votre profession, à travers vos photos. Merci pour votre belle humanité et bonne continuation, belle aventure à vous. Merci
Merci.
d'être cette porte-image et cette porte-parole de l'humanité. Merci beaucoup.
Merci Emmanuel.
Merci.